Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Et avec ce psaume, j'aimerais simplement introduire une nouvelle petite série de prédications qui va porter sur un des versets qui est un des versets le plus connu de ce psaume-là, qui est la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 24 et 44, Jésus dit à ses disciples à Emmaüs, enfin sur le chemin d'Emmaüs, où il dit, voilà, il est question de moi dans la loi, les prophètes et les psaumes. C'est un peu, voilà, un peu cette idée-là, voilà, il est question de moi dans les psaumes, il est question de Jésus dans les psaumes, et un peu cette idée-là que je voudrais partager en méditant ce psaume 118 et plusieurs textes. Pas aujourd'hui, mais dans les dimanches à venir. L'idée, c'est de plonger ses regards dans l'Ancien Testament pour mieux comprendre le Nouveau Testament. On dit souvent que l'Ancien Testament est la racine ou les racines du Nouveau Testament, et de lire donc le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien Testament. Et Luc, chapitre 24, les versets 46 et 47, donc juste après il est question de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, nous donne finalement une grille de lecture de l'Ancien Testament, où Jésus nous dit que dans l'Ancien Testament, on trouvera question de ses souffrances, de sa résurrection, du message qui devra être annoncé, à savoir la conversion, la repentance pour le pardon des péchés. Voilà, souffrance, donc la mort, la résurrection, la glorification de Jésus et ce message de la conversion, de la repentance pour pardon des péchés. Et toujours dans Luc, le verset 48 rajoute ceci, vous êtes témoins de ces événements-là. Nous sommes témoins de la mort, de la résurrection, de l'œuvre, de la mort et de la résurrection dans nos vies. Et le but aussi, en lisant ces psaumes, ces versets qui s'appliquent à Christ, c'est de mieux connaître Jésus-Christ tel qu'il est vraiment. Donc, comme je l'ai dit, le psaume 118, nous trouvons deux versets qui sont cités dans le Nouveau Testament. Vous allez les reconnaître, donc je vous en ai déjà dit un, hein, mais je vous invite à la lecture de ce psaume, donc le psaume 118. Qui répond un petit peu au psaume que Thérèse a lu tout à l'heure, le psaume 146. Voilà, où on retrouve un peu une certaine thématique. Voilà, le psaume 118, psaume de louange. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car ton amour durera toujours. Proclamez-le, habitant d'Israël. Oui, son amour durera toujours. Proclamez-le, descendant d'Aaron, oui, son amour durera toujours. Proclamez-le, vous qui révérez l'Éternel. Voilà, il y a juste une seule qui suit. Je répète le verset 4. Proclamez-le, vous qui révérez l'Éternel. Il y a toujours une seule qui suit. C'est pas grave. Voilà. Bon, vous avez le droit de répéter, hein. Proclamez-le, vous qui révérez l'Éternel, oui, son amour durera toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. Oui. Et il m'a répondu en me rendant la liberté. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai plus rien. Que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les gens importants. Tous les peuples païens m'encerclaient de partout, mais grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. Ils m'enserraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. On m'avait bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Des cris de joie éclatent, des cris de délivrance, mais les tentes des justes, dans les tentes des justes, car l'Éternel, par sa puissance, fait des exploits. Car l'Éternel, par sa puissance, remporte la victoire. Car l'Éternel, par sa puissance, fait des exploits. Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie pour publier bien haut ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi donc les portes du salut pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je viens pour te louer car tu m'as exaucé. C'est toi qui m'as exaucé. La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Vivons-la dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce au Éternel accorde le salut. De grâce au Éternel accorde le bonheur. Et l'autre verset qu'on lit souvent dans le Nouveau Testament, « Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel seul est Dieu, c'est lui qui nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. » Et peut-être vous avez d'autres traductions qui dit lier la victime du sacrifice avec les cordes et amener-la jusqu'aux cornes de l'autel. Je vais juste prendre moi cette traduction-là. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu, célébrer l'Éternel, car il est bon. Voilà. Puis vous avez un autre psaume où vous avez ce refrain qui revient à chaque fois, à chaque verset, car son amour durera toujours. La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. Voilà un peu sur quoi nous allons nous consacrer, essayer de comprendre un petit peu ce verset-là. Comme vous l'avez vu, c'est un psaume qui invite à la louange. Les quatre premiers versets. Célébrez l'Éternel car il est bon. Habitants d'Israël, descendants d'Aaron, et vous tous qui révérez l'Éternel. Enfin, le psalmiste s'adresse à trois groupes de personnes, tous les Israélites, donc tous ceux qui étaient membres du peuple juif, la maison d'Aaron, donc les prêtres, les lévites, ceux qui étaient chargés d'apporter les sacrifices au temple, et puis un dernier groupe, tous ceux qui révèrent l'Éternel, tous ceux qui craignent l'Éternel. Alors, ça peut être aussi tous les juifs, mais ça peut être aussi, n'oubliez pas aussi que dans l'Ancien Testament, vous avez des personnes qui n'étaient pas du peuple juif, mais qui étaient intégrées à ce peuple, enfin qui étaient païens, mais qui étaient intégrées à ce peuple parce qu'ils avaient craint l'Éternel. Vous avez plusieurs exemples, cette femme qui a aidé Josué et son compagnon à quitter Jéricho, enfin plein de Ruth, qui ne sont pas du peuple juif, mais qui faisaient partie de ce peuple-là, et qui sont invités à proclamer le nom de l'Éternel. Et la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle, apparaît dans ce psaume, quand on lit bien, quand on les choses, comme la manifestation de la bonté et de l'amour de Dieu, de tout ce pourquoi le psalmiste loue l'Éternel. Et ce matin, je voudrais vous parler de quatre choses en lisant ce psaume. D'abord, essayer de comprendre un petit peu à quoi fait allusion ce psaume-là. Et ça fait allusion à deux événements dans l'histoire du peuple juif. À David, qui avant de devenir roi sur tout Israël, a connu quelques péripéties, comme on peut le voir dans ce psaume-là. Ou à la reconstruction du temple, qui pareil a été... Après la destruction du temple, quand les Juifs sont revenus d'exil, la reconstruction du temple a mis quelques temps avant, avant de se faire. C'est un psaume qui a été probablement chanté quand le psalmiste ou celui qui a écrit ce psaume-là allait au temple et est dans le temple. Et nous verrons voilà, que c'est un psaume qui se passe dans le contexte du temple. Comme vous l'avez vu aussi, c'est un psaume qui évoque le salut. Dieu a sauvé l'auteur de ce psaume. Et c'est un psaume aussi qui évoque un itinéraire que nous pourrions prendre également. Voilà, un psaume de louange qui pourrait faire référence au roi David, également pierre rejetée par les bâtisseurs et qui est devenue la principale de l'angle. David, deuxième roi d'Israël, après le roi Saül, qui est désigné comme roi par Samuel, alors qu'il y avait déjà un roi en place, le roi Saül, parce que Saül avait désobéi à Dieu et que Dieu avait trouvé en David un homme selon son cœur, un homme selon le cœur de Dieu. Mais David ne va pas régner tout de suite. Et les psaumes, ici, feraient donc référence à une période de la vie de David qu'on peut lire que vous pourrez lire chez vous, parce que c'est quand même trois chapitres dans la deuxième lettre. 2 Samuel chapitre 2 à 2 Samuel chapitre 5 verset 5, où on nous relate un petit peu les épisodes juste avant que David devienne roi sur tout Israël. La pierre rejetée par les constructeurs est devenue la principale, celle de l'angle. Avant que David devienne roi sur tout Israël, il était simplement roi sur Juda et qu'il y avait un fils de Saül qui a été proclamé roi dans le nord, donc sur Israël, donc les tribus du nord, et que donc David a été rejeté par ses tribus du nord comme par une partie du peuple comme étant le roi. Il a connu quelques difficultés, il a connu des guerres, on a failli le tuer, enfin pas mal d'épisodes qu'on peut relire dans ce psaume ou que ce psaume suggère. Mais David est devenu finalement roi sur tout Israël, parce que telle était la volonté de Dieu. Les versets 5 à 14 de notre psaume, le psaume 118, montrent, on peut voir les oppositions que peut avoir le roi David et ses ennemis. Mais Dieu vient au secours de celui qui l'avait choisi, et qu'il l'avait fait pleinement roi. David avait confiance en Dieu, on le voit, mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains, un peu le même psaume que tu as lu tout à l'heure. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les gens importants. Il dit deux fois la même chose, et quand le texte répète plusieurs fois la même chose, c'est quelque chose d'important. Juste une petite parenthèse, voilà, compter sur les humains, on n'a pas dit oui, il ne faut pas compter sur les autres. On pourrait dire, je pense que David n'a pas compté aussi sur lui-même, alors qu'il avait quand même pas mal de personnes qui étaient pour lui. Il n'a pas compté que sur lui-même, il a compté simplement sur lui, sur Dieu plutôt. Dieu accomplira ses plans dans nos vies si nous lui sommes fidèles. Et David était un homme fidèle, contrairement à son prédécesseur Saül. Quand vous lirez tous ces chapitres 2 à 5, vous verrez qu'à un moment, David s'arrête un moment et demande à Dieu sa volonté pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Au chapitre 2, verset 1, il consulte Dieu pour connaître la volonté de Dieu. Et parce que David est fidèle, Dieu voit sa maison devenir de plus en plus puissante. Le peuple lui donne de plus en plus son approbation. Mais l'accomplissement des plans de Dieu pour David, de devenir roi tout Israël, ne veut pas forcément dire, pour David ou pour nous-mêmes, qu'il a une autoroute sans bouchon, sans péage, une belle autoroute sans rien, où il peut rouler sans difficulté. David, alors qu'il était choisi comme roi par Dieu, a connu tout de même des moments difficiles, des épreuves. Et ce verset, la pierre rejetée par les hommes est devenue la principale, la pierre rejetée peut faire référence à ces épreuves, alors que Dieu l'avait choisi pour devenir roi d'Israël. Mais David était fidèle au Seigneur, était obéissant au Seigneur. Nous-mêmes, nous pouvons, dans l'illustration de la vie de David, soyons fidèles, obéissant nous-mêmes en la parole, même si cela peut parfois être difficile, accompagné de difficultés. Et si nous sommes fidèles, j'ai envie de dire que Dieu accomplira ses plans. Et David loue et invite le peuple à la louange pour ce que Dieu a fait. Dieu l'a délivré de ses ennemis, de ceux qui voulaient mettre des bâtons dans les roues, et parce que Dieu, finalement, a accompli ses plans envers lui. Et très probablement que, voilà, ce verset, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle, a été reprise par les évangélistes, Matthieu, Marc et Luc. Vous pourrez trouver ça en Matthieu 21, 42, Marc 12, verset 10 et Luc 10, 47, et même Actes, chapitre 4, verset 11. Très probablement que les auteurs des évangiles et l'auteur d'Actes avaient très probablement cette histoire de David en tête, en l'appliquant à Jésus-Christ. Ce sont des textes que nous verrons plus tard. Christ rejeté, où les hommes finalement voulaient entraver le plan de Dieu, mais Dieu finalement a fait Christ roi par sa mort et sa résurrection. Et on parle de Christ comme Messie, les rois d'Israël est également appelé Messie. Donc aussi le lien qu'on peut avoir entre ces deux, entre la pierre angulaire qui pourrait s'appliquer à David et la pierre angulaire qui s'applique à Jésus. L'autre contexte possible de ce psaume-là, c'est la reconstruction du temple. Donc après bien des années après David, vous avez eu donc une division entre Israël, il y avait un royaume au nord et le royaume de Juda, et puis le peuple, à cause de son péché, s'est retrouvé déporté à Babylone, en Perse. Et quelques temps, bien des années après, le peuple retourne d'exil et on veut reconstruire le temple qui a été détruit. C'est la reconstruction du temple que vous pourrez trouver dans le livre d'Esdras et de Néhémie, et tout particulièrement Esdras chapitre 3 et 4, où dans l'île d'Esdras, on nous parle de la construction des fondations du temple. Et on parle ici, encore dans ce psaume, de la pierre rejetée qui est devenue la principale de l'angle. La pierre de fondation. Je vous invite à lire une partie du livre d'Esdras, le chapitre 3, et les versets 10 à 13, où nous allons trouver un petit parallèle avec le psaume que nous avons lu. Donc Esdras, chapitre 3, versets 10 à 13. Je vous invite vraiment chez vous à lire vraiment tout le livre de Néhémie et tout le livre d'Esdras pour mieux comprendre un petit peu l'histoire de la reconstruction du temple. Voilà. Esdras chapitre 3 verset 10. Lorsque les maçons posèrent les fondations du temple de l'Éternel, ont mis en place les prêtres vêtus de leurs habits de cérémonie, avec les trompettes en main et les lévites descendant d'Azaph avec les cymbales, afin de louer l'Éternel selon les prescriptions de David, roi d'Israël. Ils entonnèrent des hymnes de louange et des cantiques de remerciement pour célébrer l'Éternel en chantant à tour de rôle « Oui, il est bon et son amour pour Israël dure à toujours ». On retrouve un petit peu ça dans le psaume 118. Tout le peuple fit aussi retentir de grandes acclamations pour louer l'Éternel parce qu'on posait les fondations de son temple. beaucoup parmi les prêtres, les lévites et les chefs des groupes familiaux, parmi les plus âgés, qui avaient encore vu l'ancien temple, pleuraient à haute voix pendant que l'on posait sous leurs yeux les fondations du nouveau temple, alors que beaucoup d'autres gens exprimaient leur joie par des acclamations bruyantes, de sorte qu'on ne pouvait pas distinguer les ovations joyeuses des pleurs. Le peuple poussait des grands cris dont l'écho retentissait au loin. Alors, ces versets-là nous parlent de la fondation du temple. Qu'est-ce que vous lirez dans Esdras ? Des ennemis empêchent la construction du nouveau temple. Et la construction est interrompue. Et cette interruption durera un certain temps. Je ne vais pas calculer le nombre d'années, mais voilà, pendant un certain temps, le temple n'est plus construit. Mais le temple, finalement, va se reconstruire et sa construction continuera grâce à la fidélité du peuple et sur, j'ai envie de dire, la confiance qu'ils ont en l'Éternel. On voit Néhémie qui prie beaucoup pour cela. Dans tous les cas, le psaume 118 ici est en relation avec la fondation du temple, la pierre angulaire. Et donc, si c'est un psaume qui est en relation avec la fondation du temple, c'était très probablement peut-être ce psaume-là, où on a un petit extrait dans Esdras, qui était chanté à la fin de la construction de ce temple-là. Parce que quand nous lisons le psaume 118, nous voyons plusieurs évocations du temple. Versets 19 et 20, où il nous est question de portes. Ouvrez-moi donc les portes du salut pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel, les justes passeront par elle. Voilà. Si vous viviez à l'époque du temple, si vous voulez rencontrer le Seigneur, offrir un sacrifice, vous allez passer par des temples, par des portes. Verset 26. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons depuis la maison de l'Éternel. Et un autre nom du temple, c'est la maison de l'Éternel. La gloire, la présence de Dieu était présente dans le temple, et parfois par une nuée, mais était présente dans le lieu très saint. C'était la maison de l'Éternel. Et au verset 27, où nous avons lié la victime du sacrifice avec des cordes et amené-la jusqu'aux cornes de l'autel. Alors juste un petit mot, c'est un verset qui est assez très ambigu, très compliqué, on ne sait pas trop à quoi ça fait référence. Et voilà, on a en tout cas la référence à l'autel où on apportait les sacrifices, et très probablement de la victime qu'on allait amener à l'autel, le verset 27. Et dans ce contexte, la pierre angulaire, c'est celle du temple, la fondation du temple. Et Dieu a permis la reconstruction du temple. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Et vous allez retrouver donc ce verset, la pierre rejetée par l'âme, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1 à 10, où Pierre va faire référence au temple, où il invite les chrétiens qui sont des pierres vivantes, à former un temple spirituel, de nous fonder sur le Christ, qui est cette pierre angulaire. Il a parlé que nous sommes une communauté de rois prêtres et que nous devons apporter des sacrifices spirituels. Un autre texte que nous verrons plus tard. Voilà, un psaume chanté dans le temple. Et c'est un psaume, je pense que ça vous l'avez remarqué, qui loue le Seigneur parce que le Seigneur a donné son salut au psalmiste. Un psaume de reconnaissance, mais de reconnaissance pour le salut que donne le Seigneur. Et il y a un lien entre le temple et le salut. Dieu est venu secourir l'auteur de ce psaume, hein, on le voit, Versets 5 à 7, « Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. Il m'a répondu en me rendant la liberté. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai plus rien. Que me feraient les hommes ? L'Éternel est pour moi, il vient mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Le verset 14. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Un psaume qui évoque le salut, soit de David ou soit du peuple qui voulait reconstruire le temple. Il y a un lien aussi entre cette pierre angulaire, rejetée par les hommes et devenue la principale, et le salut. Les versets 21 à 25 qui entourent le verset 22 où il est question de cette pierre angulaire. Je viens pour te louer, car tu m'as exaucé, c'est toi qui m'as sauvé. La pierre rejetée, donc verset 21, verset 22, la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Vivons là dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce au Éternel, accorde le salut. De grâce au Éternel, accorde le bonheur. Et verset 25, je viens de dire, de grâce au Éternel, accorde le salut. Quand vous lisez en hébreu, vous avez le mot hosanna. Oui, c'est ça, hosanna, oshiana. Hosanna, viens Seigneur, sauve. Et vous avez plusieurs psaumes qui font un parallèle entre le rocher, la pierre, et le salut. Le psaume 31, verset 2 nous dit ceci, « Viens me délivrer, sois pour moi un rocher, une solide forteresse où je trouve le salut. » Le psaume 95, verset 1, je crois que ça a donné un chant, mais je ne retrouve pas l'air, donc si vous pouvez le chanter après que je vous ai dit ce psaume-là, ça va me rappeler l'air. « Allons acclamer l'Éternel, le rocher de notre salut. » Il y a un chant qui parle de ça, mais je suis incapable de le retrouver. Alors, celui qui le retrouve avant la fin de cette prédication, on pourra chanter après la prédication. Voilà. Le psaume 95, voilà, associe le rocher, la pierre avec le salut. Allons acclamer l'Éternel, le rocher de notre salut. La mention de l'autel, de la victime, de la référence au temple, tout cela dans l'Ancien Testament, le seul lieu où nous pouvions recevoir le véritable salut, c'était dans le temple, en offrant un sacrifice. Car le salut est le sacrifice dans l'Ancien Testament, c'était pour recevoir le pardon des péchés. Et ce pardon des péchés se faisait au moyen du sacrifice. Et la démarche du psalmiste ici, c'est donc d'aller remercier Dieu dans son temple, parce qu'il l'a sauvé. Et on pourrait faire un découpage du psaume en deux. Donc on a discuté un tout petit peu avant avec Robert là-dessus. Mais vous pourriez avoir du verset 1 au verset 18 la sensation que le psalmiste est à l'extérieur du temple et qu'il remercie Dieu parce qu'il l'a sauvé. Et au verset 19, on a l'impression que David veut entrer dans le temple. Ouvrez donc les portes du salut pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. Et le verset 19 à 28, voilà, on entre dans le temple. Ouvrez les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. Alors qu'il est déjà en train de louer, mais sa véritable louange n'aura lieu d'être que dans le temple. Verset 25. Voilà, il a déjà dit avant les versets 1-18 que Dieu l'avait sauvé. Mais verset 25, nous sommes dans le temple, probablement près de l'autel. Et verset 25, voici ce que dit le psalmiste. De grâce au Éternel, accorde le salut. De grâce au Éternel, accorde le bonheur. Il a déjà remercié le Seigneur parce qu'il l'avait déjà sauvé. Et là, le psalmiste va dans le temple et demande finalement que Dieu puisse le sauver. Car c'est dans le temple, par le sacrifice que le psalmiste va offrir, même s'il s'agit très probablement d'un sacrifice de reconnaissance, mais il y avait toujours une demande de pardon, que le psalmiste connaîtra réellement le salut. Et puis le verset 27, vous avez cette notion du sacrifice. Parce que très, très intéressant, vous avez le verset 27, on a l'impression, voilà, on amène le bélier, le bouton, enfin la bête qui va être sacrifiée sur l'autel. On pourrait imaginer qu'il y a peut-être un court silence entre le verset 27 et 28. Le sacrifice est fait. Et le verset 28 et 29. Tu es mon Dieu, je te louerai. Je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrer l'Éternel, car il est bon, car son amour durera toujours. Parce que le pardon, le fait que nous soyons réellement sauvés, le fait que nous soyons pardonnés, amène la louange. Dieu est bon parce qu'il nous a sauvés, il nous a libérés de notre péché. Son amour durera toujours. Dieu est bon, il est amour parce qu'il accorde le salut à celui qui vient lui demander. Et quand on fait ce lien entre le temple, le salut, on voit tout de suite la relation avec le Christ. Christ, Jésus-Christ, et celui, et c'est l'épître aux Hébreux qui parle de ça, est celui qui est à la fois le sacrificateur et celui qui est le sacrifice, la pierre rejetée par les hommes, mais aussi la pièce maîtresse du temple, si je veux dire. Je ne sais pas si l'image elle est juste, mais que finalement, Christ est l'autel sur lequel est l'autel, à la fois l'autel et le sacrifice. Parce que la seule voie du salut, finalement, c'est d'accepter le sacrifice et de demander pardon au Seigneur en acceptant le sacrifice de Jésus à la croix. Et ce psaume, finalement, nous décrit un itinéraire pour celui qui veut louer Dieu. La première étape dans cet itinéraire, c'est l'appel au secours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel pour demander au Seigneur le salut. L'accès au temple, venir à la croix, là où est le juste, où nous est question de, je ne vais pas marquer les références, mais voilà, c'est, on parle de porte des justes. Voilà, verset 20. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Si nous voulons vraiment, j'ai envie de dire, être en présence du Seigneur, il faut que nous soyons justes. Seulement ceux qui sont justifiés par Dieu, déclarés justes par rapport au péché, qui peuvent apporter une louange qui sera digne d'être reçue par le Seigneur. Un psaume qui relate un itinéraire. Celui de David. Celui du peuple qui a voulu reconstruire le temple. Celui qui prend conscience que Dieu l'a sauvé de la mort, finalement le résultat du péché, qui remercie Dieu pour cela, qui prend conscience que ce salut, finalement, ne passe que par le sacrifice et l'acceptation du sacrifice à notre place du Christ. La vraie louange, finalement, commence par l'acceptation du sacrifice et pour ceux qui sont déclarés justes. Et vous avez un autre psaume, le psaume 24, qui dit un petit peu la même chose. Psaume 24, verset 3 à 6, qui commence... On est un petit peu au milieu du psaume, mais voilà, le verset 3 commence par une question. Qui pourra accéder au mont de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? Et la réponse, l'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers la mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain, celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô Éternel, tel est le peuple qui te révère et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Que notre vie soit fondée sur cette pierre, rejetée des hommes, mais devenue la principale pierre qui est pour nous la pierre qui nous sauve, mais également celui qui est pour nous notre sacrifice et qui nous permet d'avoir un accès auprès du Père. Et juste pour terminer, je voudrais faire une dernière remarque qui est je trouvais ça très intéressant. Tout le psaume 118 finalement parle d'être sauvé, cette notion de sacrifice, etc. Juste après le psaume 118, vous avez le psaume 119, le plus long psaume 119. Et le psaume 119 commence ainsi: « Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur voie la loi de l'Éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. » Ça m'a fait réfléchir, dire le fait que nous soyons sauvés ne nous dispense pas de l'obéissance et de la fidélité au Seigneur. Et c'est une obéissance, finalement, est une conséquence du fait que nous soyons pardonnés et que nous vivons en nouveauté de vie. J'invite à la prière. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Te remercier pour ce psaume qui nous invite à la louange, parce que tu es bon et ton amour durera toujours. Merci parce que si tu nous as sauvés, c'est parce qu'un jour tu es venu sur cette terre t'offrir en sacrifice, Seigneur. T'offrir en sacrifice afin que, oui, nous ne connaissions pas la mort, cette mort qui nous sépare de toi à cause de nos péchés, mais qui nous permette finalement de rentrer en ta présence et de te louer pour ce que tu as fait pour nos vies. Parce que tu es venu nous sauver. Merci aussi parce que tout ce que tu promets dans ta parole se réalise. Merci également pour Jésus, cette pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale de l'angle. Que nous puissions toujours être fondés sur toi, sur ta mort, sur ta résurrection, sur ta parole, Seigneur. Garde-nous fidèles, Seigneur, en toi, Seigneur. Amen.